Bon, bienvenue à bord. Je ne commencerai l'essentiel du commentaire qu'à partir de l'arrêt Pontanezane, puisque parler de l'urbanisation par ici, ça serait quand même un petit peu difficile. Je vais simplement commencer par me présenter. Je vais parler un petit peu plus fort, puisque ceux qui sont à côté de moi n'entendent pas la sono. Mon nom est Patrick Dieudonné, je suis enseignant à l'Université de Bretagne Occidentale dans une formation qui s'appelle l'Institut de Géoarchitecture, qui est une formation en urbanisme et en aménagement qui a fêté l'an dernier son 35e anniversaire. Alors, pendant la durée de ce parcours, on va parler essentiellement d'urbanisme. D'abord, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, et puis d'architecture quand on commencera à en voir. C'est-à-dire que nous allons prendre, je fais de mon mieux, hein. Nous allons prendre l'histoire de Brest d'abord à rebours, puisqu'on va commencer par un de ses quartiers les plus récents, le quartier de Pontanezane, qui a été livré autour de 1972-73 et qui a fait l'objet très récemment d'une opération de réhabilitation, dite opération de renouvellement urbain, et qui est encore d'ailleurs en cours d'achèvement. Bien, donc nous entrons dans ce quartier de l'Europe, c'est promis, je ne ferai plus l'erreur, autrefois Pontanezane, qui avait commencé son histoire urbaine, d'ailleurs de manière toute militaire, puisqu'il s'agissait d'abord d'un camp, qui avait été installé sur le site. La vraie histoire urbaine, elle commence donc avec la réalisation de la ZUP, zone urbanisée en priorité, donc un quartier qui va recevoir plusieurs centaines de logements pour aboutir à celui que nous connaissons aujourd'hui et qui est une véritable ville, hein, puisque pratiquement c'est 6000 habitants, donc c'est l'ordre de grandeur d'une ville comme Saint-Renan aujourd'hui. Alors, l'arrivée du tramway a été l'occasion de transformer assez profondément ce quartier. D'abord parce que pour faire passer cette ligne, on a supprimé quelques bâtiments qui étaient sur son parcours. Un immeuble qui était de ce côté-ci et puis à l'autre bout, une tour qui a également laissé la place à la ligne. Donc au total, ce sont environ 400 à 500 logements qui ont été détruits et reconstruits soit sur place, soit dans d'autres sites. Alors, ce qui est caractéristique non seulement de ce quartier de l'Europe, mais de la plupart des grands ensembles en France, c'est que leur structure est très différente de la structure d'un centre-ville. Dans un centre-ville, les bâtiments sont construits le long des rues, le long des voies, et l'intérieur des îlots est un territoire privé. Ce sont des jardins, des cours. Et on pourrait dire qu'un grand ensemble fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un espace public qui est beaucoup plus important et les bâtiments sont plutôt au centre des terrains. Et alors, ce qui a été fait au passage de cette ligne de tramway, c'est qu'on a fait reconstruire à partir de l'image d'un boulevard, c'est-à-dire qu'on retrouve le principe d'une voie centrale, des plantations de part et d'autre, et puis les immeubles ont été réinstallés et reconfigurés pour accompagner donc cette voie publique centrale. C'est donc la figure du boulevard, une figure urbaine assez traditionnelle qui a été en quelque sorte ressuscitée dans le quartier de l'Europe à l'occasion de cette transformation. Autre transformation également, l'installation d'une mairie annexe qui a été réalisée par le collectif d'architectes qui a pris en charge une partie de l'opération de rénovation urbaine. C'est-à-dire que cet endroit qui apparaissait, même si ça n'était pas tout à fait le cas, qui apparaissait comme une sorte de forteresse, hein, délimitée par quelques immeubles et un peu inaccessible, avec le passage de la ligne de tramway et la mise en place d'un équipement ici juste devant la rame, le quartier apparaît à nouveau comme un quartier ouvert sur le reste de la ville. Alors, au cours de notre parcours, nous allons franchir un certain nombre de limites. C'est bien la caractéristique d'un tramway que de rétablir des continuités là où peut-être elles étaient autrefois imperceptibles. Le franchissement des limites de ce quartier de l'Europe en est un exemple. Nous allons franchir d'autres limites au cours de notre parcours, puisque nous dirigeons maintenant vers la place de Strasbourg, qui a longtemps été considérée comme la limite de la ville. Et en tout cas, c'était sous cette forme que les architectes de la reconstruction l'avaient imaginée. Donc on en reparlera dans un petit moment quand on aura dépassé donc la limite du centre commercial où nous arrivons. Alors un tramway, vous l'avez pris pour ça, c'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle un corridor de transport, c'est-à-dire que ça sert à se déplacer d'un point à un autre. Mais du point de vue de l'urbanisme, et en tout cas pour la génération de tramways qui a commencé à être mise en place à Grenoble et Nantes il y a maintenant plus de 20 ans, Brest a d'ailleurs failli faire partie de cette génération-là, le tramway c'est aussi un outil d'urbanisation, c'est-à-dire qu'en transformant la voie publique, on attend, et bon, les premiers résultats commencent à s'en faire sentir, on attend une transformation aussi de l'urbanisation à son pourtour. Le corridor du tramway, j'ai un accompagnement musical imprévu, le corridor du tramway est donc conçu pour desservir bien sûr un maximum de population, hein, c'est de cette manière qu'on en calcule le tracé, mais on attend aussi que petit à petit la ville se transforme dans le périmètre immédiat, entre 300 et 400 mètres de la ligne. On voit un certain nombre d'opérations de transformation du bâti qui commencent petit à petit à se faire sentir, et c'est sans doute un des principaux effets qu'on en attend du point de vue de l'urbanisme. Alors nous arrivons ici à la place de Strasbourg. Je vous ai dit qu'elle avait longtemps été considérée comme la fin de la ville. Lorsque Jean-Baptiste Maton, l'architecte reconstructeur de la ville de Brest, avait imaginé cet endroit, il faut bien se rendre compte qu'on était en pleine campagne. On a en archive de très belles photos aériennes de cet endroit, au milieu des champs. Il n'y avait pratiquement rien à cet endroit-là, et Jean-Baptiste Maton avait imaginé que jamais la ville n'irait plus loin. Comme d'habitude, il a été assez vite détrompé. Ça fait partie des constantes de l'urbanisme. Chaque fois qu'on pose une limite, on est certain que le lendemain matin, elle sera dépassée. C'est ce qui est arrivé à l'Octroi autrefois. C'est ce qui est arrivé aussi à la place de Strasbourg. Alors, les immeubles qui sont autour de la place, vous leur trouverez évidemment un air de famille. À l'exception bien sûr de celui qui se trouve sur le côté tribord de la rame, puisque lui est parfaitement neuf. C'est d'ailleurs un des effets de la transformation urbaine que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour les immeubles plus anciens, ceux des années 1950, ils appartiennent à cette première génération d'immeubles construits avec l'aide de l'État, qu'on appelait les Isaïe, les immeubles sans affectation individuelle. C'était la première fois, juste après la guerre, que l'État se faisait promoteur immobilier, ce qui jusqu'alors n'était jamais arrivé. Et la plupart des historiens considèrent que les Isaïe ont été les premières esquisses de ce qui allait devenir les grands ensembles un peu plus tard. Donc ce sont des immeubles assez caractéristiques de ce qu'on a pu faire dans l'immédiat d'après-guerre. Un tout début de préfabrication, mais encore très timide. Et surtout des logements qui étaient considérés comme bien plus spacieux et bien plus confortables que ce que le parc immobilier d'avant-guerre pouvait offrir. N'oublions pas qu'à l'époque, une partie significative des Brestois habitait encore en baraque, avec un confort tout relatif, mais qui déjà était pour beaucoup d'entre eux bien meilleur que celui de leur logement d'avant-guerre. La destruction de la ville, bien sûr, on ne cessera jamais de la regretter, mais du point de vue de l'état du parc de logement, elle n'a pas eu que des inconvénients. Alors maintenant, nous commençons à descendre la rue Jean Jaurès, donc une des plus grandes rues ou avenues parmi les villes européennes. On est quand même dans des échelles kilométriques. La rue Jean Jaurès, au total, c'est plus de 2 km de long. C'est quand même heureusement que nous avons un tramway pour la parcourir. Cette rue, elle est bordée d'architectures très diverses parce qu'il s'agit, dans le jargon de l'urbanisme, il s'agit d'un faubourg, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement au contact de la ville-centre. C'est une urbanisation le long d'une voie et bien sûr avec des architectures qui n'ont pas de visée monumentale. On a simplement des propriétaires qui construisent le long de la rue et en plus avec des édifices qui appartiennent à des générations différentes. Donc un caractère un petit peu disparate entre le début du faubourg au 19e siècle, je vais y revenir, et puis quelques immeubles qui appartiennent d'ores et déjà à la génération de la reconstruction. Donc le faubourg Saint-Martin s'est constitué de manière formelle à partir du milieu du 19e siècle, 1861, pour l'acte d'annexion, puisqu'il s'agit d'une conquête de la ville de Brest sur la commune voisine de Lambézélec, qui était à l'époque une des plus vastes communes françaises. Donc Brest a conquis 172 hectares de terrain qui ont été annexés. Alors 172 hectares, c'est quand même une surface assez considérable, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, le plateau du Capucin où nous nous rendons, c'est seulement 15 hectares. Donc Saint-Martin, c'était quand même un bon morceau de Lambézélec qu'on avait annexé. Alors aujourd'hui, quand on construit un lotissement, on commence par se préoccuper de l'école ou de quelques équipements culturels. À l'époque, pour construire un nouveau quartier, on commençait par l'église. Et on a donc construit dans un premier temps l'église. La halle est venue un petit peu plus tard, il a fallu attendre une vingtaine d'années. Et donc tout ce quartier s'est construit entre 1860 et la fin du 19e siècle, puisqu'il y a quand même une guerre de 70 qui est passée par là et qui n'a pas forcément favorisé la construction. Alors, beaucoup des immeubles que l'on peut deviner, puisque évidemment le plafond du tramway n'étant pas vitré, on ne voit quand même que les rez-de-chaussée ou à peu près. Les immeubles donc qui bordent la rue et qui constituent l'essentiel du faubourg Saint-Martin, vous voyez que ce sont des immeubles assez sobres. Brest n'a jamais été un petit port de pêche pimpant et coloré. C'est une architecture assez rigoureuse qui provient en droite ligne de l'architecture néoclassique qui se pratiquait assez couramment dans ces années-là. Même si en regardant un petit peu attentivement, on découvre de temps à autre une décoration un petit peu plus inventive ou un petit peu plus colorée. Certains immeubles annoncent même qu'on serait du côté de ce qui s'appelle dans d'autres villes l'art nouveau. Mais évidemment, Brest n'a jamais eu l'exubérance qu'on a pu connaître à Bruxelles ou à Nancy. Donc des édifices qui appartiennent pour l'essentiel au 19e siècle et au tout début du 20e, cette partie de Brest n'a pratiquement pas été atteinte par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de quelques bombes, on va dire, échappées, qui ont détruit notamment une partie de la place de Saint-Martin. Alors, on a passé tout à l'heure la limite de l'octroi, une autre limite de la ville que nous avons franchie, limite fiscale cette fois, puisque l'octroi, c'était cet impôt que l'on payait, c'est l'ancêtre de la TVA, hein, c'est un impôt sur les marchandises qui entraient en ville. Un impôt qui a d'ailleurs, l'histoire de l'octroi serait aussi longue que l'histoire des impôts, mais l'octroi a duré jusqu'à sa suppression, je crois que c'était en 1943, donc c'est une affaire qui a duré assez longtemps, après d'innombrables tentatives de suppression. Alors nous allons bientôt arriver dans Brest même, comme on dit, pas tout à fait, puisque nous en sommes encore au début des glacis. Le glacis, c'est cette partie interdite à la construction qui était devant tous les remparts, ce qui permettait de libérer de la place pour voir venir l'ennemi et faire manœuvrer l'artillerie. Cette partie-là a été construite beaucoup plus récemment. Vous voyez d'ailleurs que la plupart des immeubles que nous avons autour de nous appartiennent à la génération de la reconstruction. On est déjà dans le projet de reconstruction de la ville après sa destruction à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, vous découvrirez par la toute petite fenêtre de la rue de la 2e DB le bâtiment de l'hôpital, dont je précise qu'il ne s'agit pas d'un édifice de la reconstruction. Lui date d'avant-guerre. Il avait été réalisé par Gravroux et Lopez à la suite d'un concours d'architecture. Et donc l'hôpital, comme la gare d'ailleurs, date de 1936, même si on les assimile souvent à la reconstruction parce que ce sont des immeubles qui étaient extrêmement modernes quand ils ont été réalisés. Alors le bâtiment, l'hôpital est incomplet puisqu'on n'a pas construit tous les pavillons qui étaient prévus au moment du concours puisque la guerre est arrivée à ce moment-là. Mais on garde aux archives municipales un assez curieux plan de Brest, un plan comme celui qu'on distribue dans toutes les papeteries. Et ce plan mentionne les bâtiments de l'hôpital complets qui n'ont jamais été construits. Alors la place de la Liberté, elle, évidemment, a une longue histoire. Une histoire qui commence par une sorte de no man's land, puisqu'on était devant le rempart, donc il n'y avait pas grand-chose, hein, c'était simplement la sortie de la ville, une sorte de no man's land. Et il faut attendre un premier projet, qui est le projet de plan d'aménagement, le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville de Brest, qui est réalisé à partir de 1924 par l'architecte municipal Georges Millineau, et qui va prévoir déjà la réalisation d'une place publique à la place des remparts, une place publique autour de laquelle auraient été installés quelques grands édifices, un théâtre, le bureau de poste qui a fini par venir, déjà la mairie, bref, on imaginait déjà un destin un peu nouveau à cet endroit-là. Mais ce plan n'aura jamais connu de réalisation, d'abord parce que c'était seulement un plan indicatif, il n'obligeait en rien à passer à l'acte. Mais déjà, Millineau donc prévoyait de transformer le rempart en promenade plantée, ce qui a été fait après la guerre, et prévoyait un certain nombre d'extensions. On peut presque dire que, alors même que Millineau évidemment ne savait pas que la ville allait être détruite, Millineau a préfiguré l'esquisse de ce qu'allait être la ville reconstruite de Brest avant même sa destruction. Au moins pour cette partie-là, en tout cas, il n'est évidemment pas prévu de transformer l'intégralité du centre-ville. Donc aujourd'hui, nous avons une place de la Liberté qui a changé de configuration par rapport à ce qui avait été construit après-guerre, puisque après-guerre, il s'agissait d'un simple parvis devant la mairie. Et c'est seulement un petit peu avant l'an 2000 qu'un nouveau concours d'architecture a reconfiguré la place, notamment pour assurer un passage sous l'avenue qui permettait de relier un petit peu plus aisément les deux villes de Brest, puisqu'on n'en finit pas de ce dédoublement entre le centre-ville et le grand faubourg Saint-Martin. Pour vous donner un ordre de grandeur, les municipalités successives suppliaient le ministère de la guerre de déclasser le rempart et de le démolir partiellement, parce que déjà au début du siècle, il y avait plus d'habitants en dehors des remparts qu'à l'intérieur, ce qui ne facilitait pas évidemment les communications. « Alors la rue de Siam est une perspective monumentale. Jean-Baptiste Maton l'a voulu comme ça. Pour lui, une vraie ville, c'était Versailles, Karlsruhe, les grands modèles classiques. Et donc il fallait, devant ce qui allait devenir son vrai château, c'est-à-dire la mairie, il fallait une grande avenue qu'il s'est employé à monumentaliser. C'est d'ailleurs une perspective en trompe-l'œil, puisque vous voyez que la rue se resserre à mesure qu'on avance et que les immeubles deviennent un peu plus bas. Donc c'est un trucage perspectif, une sorte de trompe-l'œil qui fait que, vu depuis la mairie, la rue paraît plus longue qu'elle n'est en réalité. Bon, petit travail d'architecte qui reprend ses crayons de la Renaissance pour fabriquer une ville néoclassique, c'est-à-dire qu'elle a un grand axe principal, c'est celui que nous suivons, et puis un axe secondaire sur lequel sont alignés un certain nombre de bâtiments publics et que nous allons croiser à la hauteur de la librairie Dialogue tout à l'heure. Une petite incursion colorée, l'église Saint-Louis réalisée en pierre de l'Ogonat, c'est pratiquement le seul accent de couleur de cette partie de la ville. Donc une pierre qui est un granit. Alors je ne suis pas géologue, j'en dirai pas plus, de peur de me tromper. Mais donc une pierre qui a une coloration, je crois que c'est la présence d'oxyde de fer qui lui donne cette coloration blonde, assez différente des enduits que nous voyons. Alors je vais mettre fin, j'espère, à une douloureuse légende. Brest n'a pas été reconstruite en béton. Il y en a très peu, il y en a un petit peu dans les structures où il y a un petit peu d'armature, mais le béton était un matériau bien trop rare et bien trop difficile à mettre en œuvre pour qu'on le dépense à réaliser des logements. Le béton, c'était fait pour les grands ouvrages d'art, les infrastructures industrielles, etc. Donc Brest est reconstruite avec plutôt du matériau de récupération, de pas forcément très bonne qualité, et c'est pour que les murs soient étanches, simplement, qu'on les a enduits. S'il fallait encore ajouter un argument, Jean-Baptiste Maton, l'architecte en chef de la reconstruction, détestait le béton et l'a écrit plusieurs fois. Nous venons de traverser donc l'axe secondaire. Au passage, je signale juste dans la rue d'Aiguillon, on vient de le passer côté bâbord, le Palais du Commerce, un immeuble qui est un des rescapés d'avant-guerre, même s'il est parfaitement assimilé à la silhouette des immeubles reconstruits, parce que lui aussi était très moderne, mais ça fait partie des sept immeubles qui n'ont pas été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors on va reparler un petit peu d'urbanisme, parce que j'ai dit que Jean-Baptiste Maton avait reconstruit la ville comme une ville néoclassique, c'est-à-dire une ville traditionnelle avec des îlots. D'ailleurs, pratiquement tous les propriétaires se sont retrouvés à leur emplacement d'avant-guerre. Il n'y a pas eu d'énormes remembrements. On a simplement redressé quelques angles et transformé quelques parcelles dont la géométrie était impossible. Mais en revanche, pour l'essentiel, rien n'a changé en plan. Ce qui a changé beaucoup, c'est en coupe, notamment la rue Pasteur, qui a été assez sérieusement remblayé. En revanche, l'endroit où nous nous trouvons, lui, n'appartient plus tout à fait au plan de reconstruction tel que Maton l'a imaginé au sortir de la guerre. Ici, il avait dessiné une place ronde comme articulation entre la direction de la rue de Siam et la direction du pont qui est oblique. Et cette place ronde n'a pas été réalisée parce que nous étions déjà au milieu des années 50. La reconstruction a commencé du côté de la mairie et puis elle s'est achevée par ici. Et déjà, les architectes de la génération de Maton étaient gentiment poussés vers la sortie au bénéfice de quelques jeunes architectes de la génération montante, des modernes. Et il s'agit ici d'Eugène Baudouin qui a donc terminé la reconstruction de Maton et a déjà donné aux immeubles que nous avons ici sur ma droite le profil d'une barre. On est déjà dans les principes qui donneront un peu plus tard les grands ensembles, c'est-à-dire un grand espace public et un immeuble qui est posé loin de la rue et d'ailleurs avec de l'espace public devant et de l'espace public derrière. Donc la figure de l'îlot traditionnel a totalement disparu. Alors le pont de recouvrance, il y a peu de commentaires à en faire tellement il est connu. Donc vous savez que c'est un pont qui peut non seulement se lever mais aussi s'abaisser. Et on l'a vu de manière très spectaculaire quand la nouvelle travée a été livrée il y a quelques mois. La travée centrale peut donc être être abaissé au ras de l'eau et partir sur une barge au cas où une nouvelle déclaration de guerre surviendrait. On est sûr au moins que le pont n'irait pas s'effondrer dans la rivière, comme ça avait été le cas pour le vieux pont national construit sous Napoléon III. Alors, de ce côté-ci, nous avons changé de rive. De ce côté-ci, il y a encore un peu de reconstruction, puisque les abords du pont avaient été bombardés eux aussi. Mais une bonne partie du faubourg de Recouvrance a été épargnée par les bombardements. Et c'est seulement cette partie-ci qui a été le plus durement touchée. Donc on en a une illustration avec... des immeubles qui sont assez semblables à ceux qu'on peut voir du côté de la rue de Siam. La reconstruction de Brest est là aussi un plafond. Hein. La plupart des immeubles ne dépassent pas 4 niveaux. On a une certaine constance. Alors pour le remarquer, il faudrait passer par le pont de l'Arteloire, pour ceux qui en ont le courage de le franchir à pied. On a une très belle vue sur la ville. On ne voit que c'est l'ensemble de ces toitures pratiquement toutes au même niveau. Et le seul édifice qui dépasse, c'est l'église Saint-Louis. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle a une masse qui est assez imperceptible quand on est à côté. Mais qui montre cette différence d'échelle de manière assez spectaculaire quand on la voit d'un peu loin. Alors nous allons reprendre toujours le rempart, puisque si le tramway peut passer là, c'est parce qu'il y a, il y a de l'espace libre. Il y avait déjà un grand boulevard, mais ce grand boulevard correspond en fait à la ceinture fortifiée. C'est toujours donc le projet de Millineau qui continue de se réaliser. Donc cette trouée dans la ville qui est exactement à l'emplacement de l'ancien rempart. Alors on a aperçu depuis le pont les grands ateliers des Capucins, qui va être le terme de notre parcours. Le plateau des Capucins, comme son nom l'indique, a commencé sa vie comme une communauté religieuse qui s'est installée, c'est la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, qui s'est donc installée là jusqu'à la Révolution, où elle a été, comme la plupart des communautés religieuses, expropriée au bénéfice de la marine. Et au milieu du XIXe siècle, lorsque la marine à voile est devenue marine à vapeur, il a fallu trouver des emplacements pour fabriquer, pas forcément les navires eux-mêmes, mais surtout fabriquer les moteurs et donc l'ensemble de la métallurgie nécessaire à ces nouvelles embarcations. Et comme il n'y avait plus beaucoup de place sur les quais de Pinfeld, qui étaient quand même assez étroits, on s'est replié vers le plateau des Capucins, qui offrait donc sa dizaine d'hectares et qui permettait donc d'installer des ateliers assez confortables. Et on peut voir encore aujourd'hui l'arche qui supportait une grue à vapeur, une des premières construites en France, qui permettait donc de déposer les moteurs dans les embarcations depuis ce plateau qui surplombe quand même assez largement la rivière. Alors le plateau des Capucins a poursuivi cette carrière dans la construction navale jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que le terrain soit cédé à la communauté urbaine qui désormais en fait l'un de ses grands projets, puisque là seront construits quelques centaines de logements et surtout un certain nombre d'équipements qui viendront habiter les grands ateliers. Il y a un certain nombre de projets d'ores et déjà prévus, hein, médiathèque, cinéma, etc. Donc ce projet du plateau des Capucins, d'ailleurs, on en connaît bien que la partie construite, hein, puisque c'est par là qu'on va commencer. Mais le projet lui-même va aller jusqu'à la Haute Pinfeld, c'est-à-dire que à partir du moment où on urbanise cette partie-là de la ville, l'ouverture va pouvoir aller pratiquement en passant par le site de Kervalon, va pouvoir aller pratiquement jusqu'au parc de Pinfeld et en face jusqu'à l'université. Donc là, cette reconfiguration de la ville, hein, j'ai parlé des limites tout à l'heure en introduction de mon propos, il y a là aussi quelques limites qui vont être transformées puisque un certain nombre de réorientations des parcours urbains vont pouvoir se faire dès lors qu'on peut pratiquement aller à pied depuis le plateau des Capucins jusqu'à l'université. C'est un parcours qu'aujourd'hui, on aurait bien de la peine même à imaginer. Voilà, nous arrivons au terme de ce parcours. Vous n'êtes pas obligé de descendre, vous pouvez rester dans la rame. Bon, il y avait simplement un peu moins de matière à faire des commentaires au-delà de ce point. Je remercie tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'ici. Et puis, bien pour ceux qui en redemandent, je vous donne rendez-vous à 16h où je fais le même trajet en sens inverse. Merci. Merci. Il y a la main officielle du site.